Bonjour à toutes et à tous, bonjour la Méditerranée et bienvenue comme chaque semaine dans Kantara, le magazine d'actualité des deux rives de notre Méditerranée. Un nouveau numéro de Kantara plus beau, plus fort et plus pertinent grâce à son équipe incontournable qui regroupe Emmanuel Zard de Radio Extérieure d'Espagne, Pierre-Louis Alessandré de France Bleu RCFM en Corse, Nadira Belkhoutou de chaîne Inter Rabat, Mayada Sili de Radio Tunis, chaîne internationale, Nana Diad de Radio Liban, Violette Rafidi de Radio Palestine internationale et moi-même en direct de la capitale égyptienne, Dina Demegui de Radio Le Caire. Au sommaire de cette édition, Mayada Sili nous propose cette semaine une interview de la présidente de l'association Méditerranée, Fatima Zahra Ben Sultan Malki, est une femme qui se bat depuis de longues années pour le dialogue en Méditerranée. Les objectifs de développement 2030, c'est un programme où l'implication des femmes et des ONG est centrale. Pour l'optimisation des ONG, de nombreuses actions sont concentrées autour du genre social. Nadira Belkhoutou a rencontré à Lisbonne, lors du dernier forum du Centre Nord-Sud, Verena Taylor, la directrice des programmes du Conseil de l'Europe, et Anna Rocca, présidente de la Conférence des organisations non gouvernementales, deux invités actives dans l'action associative du sud de la Méditerranée. Pierre-Louis Alessandri a rencontré Michel Kishka, un des plus grands dessinateurs de presse en Israël et un défenseur du dialogue israélo-palestinien qui parle de son métier et des attaques qu'il subit non seulement en Israël mais dans de nombreux pays. Le soulèvement libanais s'accompagne d'un foisonnement artistique qui touche ce qu'on appelle l'œuf du centre-ville. Sleeping with the Enemy est un des collectifs qui le marque par sa présence. Fadi Chama, son fondateur, s'explique au micro de Nana Ziad.
L'Égypte assiste au plus grand mouvement de son histoire consistant à nommer des jeunes issus des partis de la jeunesse et des hommes politiques, occupant des postes de direction, ce qui constitue un véritable pas en avant pour intégrer les jeunes aux efforts de renforcement de l'État. La nomination de 16 nouveaux gouverneurs, assisté par 13 nouveaux vice-gouverneurs majoritairement sélectionnés parmi les postulants du programme présidentiel de formation des jeunes leaders, constitue le plus grand mouvement de l'histoire de l'Égypte à ouvrir la voie à l'intégration des jeunes dans l'exécutif de l'État en occupant des postes de direction.
Kantara est le fruit d'une coopération interméditerranéenne qui englobe Radio Le Caire, Radio Publique Libanaise, Radio France Radio Bleu Frequenza Mora, RTCI Tunis, Maroc Inter et Radio Extérieur d'Espagne.
Nous débutons ce Kantara avec une chanson corse. Pierre-Louis Alessandri nous propose d'écouter le célèbre ténor corse César Vezzani, qui a été une des gloires françaises de la scène lyrique de 1911 à 1951. Une des plus grandes voix de ténor que la France ait connue. On l'écoute dans un extrait de Cavalleria Rusticana de Mascanel.
Oh.
On commence notre tour méditerranée par la Tunisie où Maya Dassili nous propose cette semaine une interview de la présidente de l'association Méditerranée. Créée en 2012 en Tunisie, Méditerranée agit pour promouvoir et renforcer le dialogue sud-nord entre individus et institutions du bassin méditerranéen sur le plan culturel, social, géopolitique et économique. C'est un ensemble de structures associatives apolitiques qui développent un concept et une démarche pour la promotion pour la société civile du dialogue et des partenariats sud-sud-nord. Méditerranée travaille surtout sur les droits civils et la vie politique, l'éducation et la formation professionnelle au niveau euro-méditerranéen. Fatima Ezzahra Ben Sultan Melki est une femme qui se bat depuis de longues années pour le dialogue en Méditerranée. Son destin est méditerranéen. Elle le doit à sa naissance à Oran, ville méditerranéenne, à son père Malki Tayeb, infatigable, militant des fraternités et des solidarités entre tous et toutes, à son vécu dans une Tunisie de la femme méditerranéenne, à ses études en relations internationales à la Sorbonne, qui l'ont mise à jamais sur la voie des relations entre les deux rives de la Méditerranée. Elle plaide sans relâche pour la réappropriation par le Sud de son identité méditerranéenne, dans la fierté et la dignité. On écoute.
Cette association naît d'abord en 2006 à Paris, puis en 2012 en Tunisie, et elle a pour objectif le dialogue et la coopération, non pas nord-sud, mais sud-nord, je précise. L'idée étant de visibiliser au maximum et nos compétences, et notre histoire, et nos projets, de telle manière à ce que nous fassions des choses au sud sur cette question du dialogue sud-nord, mais également au niveau du nord. Et donc, nous avons co-organisé des grands événements autour de la Méditerranée, que ce soit donc à Tunis, à Alger, à Alicante, à Milan, même à la bibliothèque d'Alexandrie, des événements du type think tank. Donc, il s'agissait de se réunir autour d'un thème donné qui intéresse les deux rives, un thème concret. Puis, nous sommes arrivés à constater, hélas, qu'il n'était pas aussi facile de faire du Sud-Nord à partir de l'Europe et qu'il fallait peut-être qu'on s'organise à notre niveau ici, au niveau du Sud, en transfrontalier ou tout au moins à l'intérieur donc du pays, de telle manière à rassembler et nos pensées et notre réflexion et la présenter en plus grande force au niveau du Nord.
Donc vous êtes pour la coopération et pour un dialogue Sud-Nord et Sud-Sud. Précisément pourquoi et comment pensez-vous que le Sud doit et peut jouer un rôle moteur justement en Méditerranée?
Parce que c'est l'expérience qui est en train de le nous montrer, c'est les rencontres que nous faisons, parce que nous sommes à notre troisième grande rencontre tuniso-algéro-libyenne, parce que nous avons des réseaux donc, et des personnes qui nous représentent au niveau du Sud, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, et dernièrement nous avons une personne qui nous représente à la bibliothèque d'Alexandrie, et tous et toutes souhaitent justement que cette visibilité du Sud soit forte, un peu plus forte, en se rassemblant et en travaillant sur des sujets qui nous intéressent, tout en étant dans l'espace du dialogue entre le Sud et le Nord. Mais cette idée du Sud est importante à faire émerger et à renforcer, comme quoi le Sud, lui aussi, a beaucoup à dire.
Et votre engagement, justement, Fatma Ben Sultan, pour le dialogue Nord-Sud ou Sud-Nord ou Sud-Sud en Méditerranée, il est de longue date, hein, peut-être bien avant même la création de l'association Méditerranée à venir. Quelles sont les raisons de votre engagement?
Tout d'abord, j'ai fait des études à la Sorbonne en relations internationales. Et donc, elle m'a mis le pied déjà sur cette question. Mon enfant, je l'ai vécu dans un milieu divers, de la diversité, où il y avait tout le monde, des deux rives de la Méditerranée. Et puis, troisièmement, j'en suis arrivée au dialogue, du fait des turbulences qui se passent et du fait aussi de dire le constat que chaque fois que nous avons une rencontre au nord, il y a, si vous voulez, une sorte de... On impose certaines idées et qu'au sud, nous en avons tellement plein qu'il faudrait qu'il est temps qu'on les fasse connaître. Et comme je vous disais tout à l'heure, que le problème n'est pas seulement de les faire connaître, mais de faire des projets concrets, mais de médiatiser. Et je pense que beaucoup de gens maintenant en Europe sont à l'écoute. Et je vous dirai pourquoi.
Pourquoi ?
Je vous donne le cas concret de la Belgique. Nous avons en Belgique, je suis aussi vice-présidente d'une fondation qui s'appelle la Fondation du Dialogue Sud-Nord à Bruxelles. Donc elle parle Sud-Nord. Elle est présidée par M. Ferdinand Nothomb, qui est ministre d'État belge. Et tout l'objectif, c'est d'écouter le Sud. C'est de dire ce Sud qui est en turbulence, ce Sud où quand même il émerge, ce Sud qui est dans une situation de transformation dans nos pays. Mais qu'est-ce que ce Sud ? Et là, c'est les événements comme la migration et le reste qui fait que ça interpelle le Nord. Et là, on veut connaître. Tant qu'il n'y avait pas de turbulence, donc ce Sud était bien tranquille. Mais là, maintenant, on veut connaître et surtout... Pour certains, et là l'année dernière, au Parlement de Bruxelles, où j'avais dit quelque chose qui avait, je pense, interpellé les gens, en disant que si l'insécurité est partagée, la solidarité doit l'être aussi, et qu'il est temps qu'on pense aussi de cette manière-là. Donc il y a des écoutes, mais qui ne sont pas encore assez importantes, j'imagine, pour que l'on comprenne que le Sud peut lui aussi.
Mais qu'est-ce que vous proposez justement concrètement en termes d'action pour relancer cette coopération ?
Nous étions au départ Dialogue Sud-Nord et nous avons fait des activités. Et chaque fois, il est sorti un peu ce besoin du Sud, entre nous, de nous rencontrer quelque part et de faire des choses ensemble. Bien sûr, avec le soutien, quand il le faut, des gens en Europe qui vraiment veulent soutenir ce type d'action. Et donc, nous sommes à notre troisième action transfrontalière. L'idée, c'est de dire, peut-être faut-il qu'on se rencontre dans le Sud entre nous, qu'on discute entre nous, qu'on fasse des projets entre nous, et que nous puissions, quand nous allons au Nord, partir quand même plus ou moins unis sur des questions qui sont des questions de terrain, des questions concrètes. Quel était le meilleur sujet de rassemblement et le plus facile ? La question féminine. Nous avons trouvé des échos plus que favorables au niveau des femmes qui, lorsque nous leur avons présenté donc, nos projets transfrontaliers, que ce soit en Algérie, en Libye ou notre représentante au Maroc, ont très vite donc adhéré à l'idée.
Quelle sera la suite de vos actions au sein de Méditerranée à venir ?
Nous comptons organiser en avril une randonnée dans le Sud, dans des coins que personne ne connaît et qui sera organisée par les gens du Sud uniquement et qu'on appellera randonnée de la solidarité avec les frontalières, où il s'agira aussi d'aller voir des femmes que l'on ne voit pas toujours là où elles font quelque chose donc dans leur région. Enfin, nous comptons organiser un colloque en 2020, sur cette question de la Méditerranée et du frontalier, du transfrontalier, parce que je pense que ça va être la question de l'avenir, et particulièrement dans nos pays. Il ne s'agit pas des grandes envolées politiques ou des grands projets méga économiques, mais que des fois, quand on sème la petite graine, on peut avoir autant de belles fleurs qu'en attendant de faire les grandes choses. Méditerranée Avenir est une association qui éduque à la Méditerranée et maintenant au transfrontalier. Et nous avons longtemps fait ce qu'on appelle des matins multiculturels pour les jeunes, pour leur dire qu'est-ce que la Méditerranée, qu'est-ce que les relations interméditerranéennes. Il faut arriver à créer ce flux qui s'est créé, que la Méditerranée ne devienne pas que ce cimetière qu'elle est, que cette Méditerranée ne devienne pas que le sujet de conflit, mais qu'elle peut être autre chose, même si des gens n'y croient pas. Mais je pense qu'elle peut redevenir quelque chose grâce à nos jeunes.
Sous le climat qui fait chanter tout le midi, sous le soleil qui fait mûrir les ritournelles, dans tous les coins on se croirait au paradis, près d'une mer toujours plus bleue, toujours plus belle, et pour qu'elle ait dans sa beauté plus de douceur, mille jardins lui font comme un collier de fleurs. C'est une fée qui t'a donné.
clair de lune entendez-vous dans le lointain, comme un écho qui sur les vagues s'achemine. Entendez-vous le gai refrain des tambourins, accompagné du trémolo des mandolines. C'est la chanson qui vient bercer toutes les nuits les amoureux du monde entier qu'elle a séduit.
Les objectifs de développement 2030, c'est un programme où l'implication des femmes et des ONG est centrale. Pour l'optimisation des ONG, de nombreuses actions sont concentrées autour du genre social. Nadira Belkhotout a rencontré à Lisbonne, lors du dernier forum du Centre Nord-Sud, Verena Taylor, la directrice des programmes du Conseil de l'Europe, et Anna Rocca, présidente de la conférence des organisations non gouvernementales, deux invités actives dans l'action associative du sud de la Méditerranée.
Madame Verena Taylor, vous êtes la directrice du bureau de la direction générale des programmes du Conseil de l'Europe. Merci de répondre à notre invitation. En tant que chargée des programmes du Conseil de l'Europe, est-ce qu'il y a suffisamment de programmes de sensibilisation des femmes pour qu'elles puissent comprendre cette corrélation nécessaire entre la démocratie, l'état de droit et les objectifs de développement durable qui sont d'ordre plutôt économique ou socio-économique pour elles?
Les objectifs de développement durable, même s'ils ont une dimension économique sans doute, parce que le développement économique est aussi nécessaire pour la prospérité de tout le monde, et la lutte contre la pauvreté et l'extrême pauvreté est l'objectif principal finalement. Donc c'est quand même une dimension très très importante. Est-ce qu'il y a suffisamment d'attention pour la contribution des femmes dans ces domaines? Probablement pas. Probablement pas. Est-ce qu'on va résoudre ça aujourd'hui? Probablement pas non plus. Est-ce que vous avez absolument raison de le mentionner? Oui, je pense aussi. Il est clair que bon, pour le Conseil de l'Europe, même si on contribue de manière générale à tous les objectifs de développement durable, c'est clair que l'objectif 16 et l'objectif 5, l'égalité de genre, sont les deux objectifs centraux. L'objectif 16, les institutions, la démocratie, la justice, ça c'est clair, ça sont nos thèmes cœur, je dirais, ça c'est clair. Mais à l'intérieur de ça, il faut, je pense, encore donner beaucoup plus d'attention aux femmes.
Madame Anna Rocca, vous êtes la présidente de la conférence des organisations internationales non gouvernementales du Conseil de l'Europe. Les associations de la rive sud de la Méditerranée, quel type d'action les ONG peuvent faire pour réaliser le succès des objectifs de développement durable?
Alors, elles sont déjà très engagées, et si je ne me trompe pas, même l'expression, les concepts du développement durable vient des ONG, donc de l'action de plaidoyer qui a été faite à l'époque. Alors, nous, en tout cas, on agit beaucoup sur la question de la pauvreté. C'est assez clair qu'on a chaque année, 17 octobre, on a une cérémonie, on a des séminaires, on incite, on va dire, les États et l'Assemblée et les congrès à réfléchir finalement et leur dire, ah, Vous voyez, vous ne pouvez pas faire ça si les gens sont dans la misère. Donc, ça, c'est clair qu'on rappelle ça. La question de l'égalité pour tous, la question de l'égalité des gens, l'égalité, en fait, l'éducation, ça, c'est aussi un point très important. On voit encore aujourd'hui l'exclusion de la population rom dans les écoles, la discrimination qui sont là, on a l'impression. Donc voilà, donc on dénonce, c'est clair, un certain état de choses. Et en fait, on propose aussi, parce que l'objectif, ce n'est pas juste dénoncer et critiquer, c'est aussi de proposer des solutions pour améliorer les politiques publiques.
Kantara, une autre idée de la Méditerranée.
Une pause musicale avec une chanson marocaine.
والله يستاهل قلبي وإحساسي
حبوبي يستاهل على عيني على راسي والله يستاهل قلبي وإحساسي
هو اللي في بالي عمري ولا نسيته عند عزيز وغالي ولا يوم خليته خاطر قمر وانا نغامر حبيبي عليك نخاطر قمر وانا نغامر حبيبي عليك نخاطر حبك مصهرني وانت اللي في الخاطر حبك مصهرني وانت اللي في الخاطر
Thank you.
Et du sud, on va au nord pour retrouver Pierre-Louis Alessandri qui a rencontré Michel Kishka, un des plus grands dessinateurs de presse en Israël au festival de Conversano dans les Pouilles en Italie. Il avait été invité pour parler de son métier et des attaques qu'il subit non seulement en Israël mais dans de nombreux pays comme aux USA où le New York Times ne publie plus de dessins de presse. Kishka est un défenseur du dialogue israélo-palestinien. Il parle tout d'abord des temps qui changent pour le dessin de presse, la difficulté de concilier liberté d'expression, responsabilité et respect des différences.
Les temps changent. J'ai grandi avec Charlie Hebdo, avec Reiser, des choses qui aujourd'hui seraient impubliables. Personne ne publierait Reiser tel qu'il a été publié au début des années 70 en France. Sa critique acerbe de la société française, avec les gros dégueulasses, avec tout ce qu'il a pu dessiner, il est allé tellement loin, mais voilà, il y a une espèce de régression, mais qui est juste l'effet d'une espèce de vague qui va monter, qui va descendre. En ce moment, ça fait des années, il y a le politiquement correct qui a remplacé la censure dans les démocraties, et il est pire que la censure. Parce que la censure, elle avance à visage ouvert. Et le politiquement correct, non. C'est insidieux.
On ne peut pas oublier le fait qu'en 2015, en France, des dessinateurs de presse ont été assassinés.
Je suis le premier à ne pas l'oublier. D'abord, Tignoux était un ami proche. Je connaissais Cabu, je connaissais Honoré, je connaissais Olinsky.
Ce qui veut dire combien le dessin peut être porteur de messages.
C'est un cas extrême. Et ça ne peut pas servir de cas de figure à ce qui nous attend, nous, les dessinateurs. Parce que ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, d'abord, c'était pas que Charlie Hebdo. Parce que c'est devenu Charlie Hebdo. À Charlie Hebdo, il y a 5 dessinateurs, mais il y avait aussi 7 autres personnes. Le lendemain, il y a eu une policière. Et le surlendemain, il y a eu 4 Français, juifs, de confession, qui étaient allés faire leurs courses pour Shabbat à Hyper Kasher. Donc c'est pas la caricature qui a été attaquée. C'est la société occidentale et le modèle républicain français dans ce qu'il représente. La terreur, ce sont des cas extrêmes. Les cas plus grave, ce sont des dessinateurs qui sont aujourd'hui jetés de leur journal, ou jetés en prison par Erdogan, ou jetés de leur journal aux États-Unis. Ce sont des assassinats d'une autre forme.
Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la presse française, notamment les dessinateurs français, relatent comme il faut le problème du Moyen-Orient, le problème israélo-palestinien ?
Je ne suis pas toujours ce que font tous les dessinateurs français. De temps en temps, je vais voir à gauche, à droite, on va parler du conflit dans un dessin que quand il y a une actualité brûlante ou que quand il y a quelque chose de nouveau à dire. Traditionnellement, il y a eu dans la presse française un certain parti pris pro-palestinien, et c'est pas illégitime, c'est une position que je peux comprendre, mais je pense que les médias, et ça me gêne parce que je regarde plus la télé que je ne lis les journaux, j'ai les câbles, je vois les chaînes de télévision françaises, la manière dont l'information est transmise dans les JT, elle est trop réduite. Elle est trop réductrice surtout. Vous savez, dans ce conflit, il y a 2 responsables. Il y a les Palestiniens d'un côté, et je leur mets 50% des responsabilités sur le dos, et Israël, auquel je mets aussi 50%.
Ceux qui habitent sur la bande de Gaza, ils ne sont pas tellement favorisés. Sont-ils les premiers responsables aussi?
Non, la bande de Gaza, c'est un cas à part. Et moi, je pense que la population gazaoui civile, elle est prise en otage par le Hamas. Gaza, c'est une prison à ciel ouvert, immense. D'accord. Mais d'un autre côté, maintenir les Gazaouis dans un statut de réfugiés ad vitam aeternam, c'est pas une solution.
Les Arabes israéliens qui ont permis finalement de ne pas donner la victoire à Netanyahou, ça vous satisfait? Vous êtes plus optimiste?
Écoutez, je suis très content d'abord que le vote arabe en Israël ait été cette fois-ci le plus élevé au niveau de la participation, c'était 70%. Leur représentativité à la Knesset, au Parlement, est beaucoup plus proportionnelle à leur part dans la population. D'un autre côté, c'est un frein à la droite. J'espère que le procureur de la République mettra Netanyahou en face de ses responsabilités légales et il ne pourra plus continuer à diriger le pays. C'est ce que je souhaite. Et je le souhaite en tant qu'homme de gauche, d'accord, mais en tant qu'Israélien qui veut un pays propre.
Le combat pour la liberté se gagne aussi avec les crayons. La volonté était de montrer que le dessin de presse parvient aussi à bâtir des ponts entre des peuples qui se déchirent.
Vous écoutez Kantara, le magazine de la Méditerranée.
We
D'une coopération interméditerranéenne qui englobe Radio Le Caire, Radio Publique Libanaise, Radio France Radio Bleu Frequenza Mora, RTCI Tunis, Maroc Inter et Radio Exterior d'Espagne.
Et on va au Liban pour voir un autre genre d'art, un mouvement artistique contemporain qui touche ce qu'on appelle l'œuf du centre-ville, comme l'art urbain qui regroupe toutes les formes d'art réalisées dans la rue ou dans des endroits publics et englobe diverses techniques telles que le graffiti rapide sur mur, le réclame, le pochoir, la mosaïque, le sticker, l'affichage, voire le yarn bombing ou les installations. C'est principalement un art éphémère vu par un large public. Sleeping with the Enemy est un des collectifs qui le marque par sa présence. On écoute Fadi Chama, son fondateur, qui s'exprime au micro de Nanette Ziad.
L'œuf, ce bâtiment de forme ovoïde, un espace abandonné depuis la guerre, est situé place des Martyrs, dont la construction avait démarré au milieu des années 60 et qui avait pour vocation de devenir un centre commercial moderne, est aujourd'hui quasiment devenu le symbole de la résistance artistique. De nombreuses expositions s'y sont tenues et depuis le 17 octobre, il est l'objet de toutes les curiosités. Investi par de nombreux artistes, il a également abrité le travail de Sleeping with the Enemy, un collectif de 4 artistes qui mettent leur art à portée de tous. Fadi Chama, l'un de ses membres, décrit un de leurs derniers projets en date. Après 2 expositions précédentes dans l'œuf, c'est l'œuf lui-même qui respire la constitution libanaise.
L'idée, c'est de prendre l'œuf ou bien l'aigle et que ça devienne un endroit pour la Constitution. Donc tu rentres dedans et tu n'as que la Constitution.
C'est alors ça. Effectivement, cette Constitution qui est le pilier de cette République est souvent très méconnue, et surtout des jeunes.
Absolument, et quand tu la lis, quand tu la lis, tu vois qu'on est dans un pays très très moderne, il y a tout ce qu'on demande.
Il suffit juste d'appliquer les lois, en fait.
Absolument.
Les lois sont toutes présentes, mais il suffit de les appliquer.
Oui.
Alors, vous avez choisi une voie connue pour parler de cette Constitution.
Oui, on a choisi la voie de Darin Ashjoundi, qui est une actrice, et on l'a déjà. Donc, on cherche maintenant à voir comment il faut l'appliquer du point de vue technique, son et tout. Nous sommes peut-être... plus dans l'acte social, on considère que l'art a un rôle social et il doit le jouer. L'art ne doit pas être élitiste, peut-être s'il l'est quelquefois, mais son rôle primordial, c'est vraiment comment on peut travailler ensemble pour le même but.
L'art a toujours un message à porter, mais par les temps qui courent, avec le soulèvement qu'on a vu, est-ce que l'art, justement, est mis à contribution pour faire passer un message ou pas forcément dans votre cas ?
Dans notre cas, je pense, dans tous les cas de l'art, l'art est politique. Même si vous faites quelque chose qui n'a pas un semblant de politique, mais c'est déjà un message. On a trois projets. On a la première qui est la Constitution dans l'œuf. Et la deuxième, c'est un journal dans les rues, sur les murs. Donc, c'est une série de posters avec des messages.
Quel genre de message ? Quel genre de journal ça va être ?
Ça va être un peu du motivational, quand on se sent bas, quand on est là, quand on sent que les choses ne bougent pas, de faire un peu de changement, de donner un peu plus de voltage à ce qui se passe dans les rues.
Redynamiser le moral, quoi, en d'autres termes.
Oui.
Et c'est un journal qui va être écrit par vous
Voilà, qui va être écrit, et c'est en arabe. C'est très, très simple. C'est des mots qui sont très, très bien mis en forme. Et on espère que ça va fonctionner.
Alors, il y a toujours vos quatre. Est-ce que vous allez faire appel à des illustrateurs, du coup, peut-être ?
Sûrement. On est ouvert à tout le monde, à toute forme d'art, à toute forme de personnes. On est un collectif, donc...
Et quand est-ce que ce projet doit voir le jour ?
Il est déjà dans les rues, donc on le travaille petit à petit.
Vous avez besoin de le développer, c'est ça ?
Oui.
Troisième projet sur lequel vous travaillez, c'est cette Soup Squad,
qui est tout simplement... une main tendue vers ceux qui sont dans la rue pour manifester ou parce que leur situation s'est précarisée avec le mouvement de protestation. Il s'agit de cuisines ambulantes dont les membres préparent à manger avec des ingrédients offerts par des âmes généreuses ou récupérés avant la date de péremption, histoire de manger écolo et afin de ne pas oublier la planète, même en plein soulèvement.
Quoi de plus sympa qu'un œuf ?
Quoi de plus sympa qu'un œuf ?
Qu'il neige, qu'il vente ou qu'il pleuve ?
Qu'il neige, qu'il vente ou qu'il pleuve ?
C'est le soleil qui frétille quand il sort de sa coquille. Quoi de plus sympa qu'un œuf ?
Quoi de plus sympa qu'un œuf ?
C'est le dîner rêvé d'un veuf. Il peut se faire une omelette ou un petit œuf en merette. Et pour un coureur cycliste, l'œuf mollet vous trace la piste. Mais pour les gens pressés, l'idéal, c'est de prendre un œuf à cheval. Quoi de plus sympa qu'un œuf ?
Quoi de plus sympa qu'un œuf ?
Pour tester un dentier neuf.
Pour tester un dentier neuf.
Un œuf à la coque tout bête n'a pratiquement pas d'arête. Quoi de plus sympa qu'un œuf ?
Pas de plus sympa qu'un œuf.
On a de multiples preuves.
On a de multiples preuves.
Dire qu'il guérit le pessimisme, se répondre un euphémisme. Pour parfaire mes vocalises, c'est l'œuf gobé que j'utilise. Et pour les cerveaux qui tournent en rond, y a bien sûr l'œuf de colon. Quoi de plus sympa qu'un œuf ?
Quoi de plus sympa qu'un œuf ?
C'est bien moins nerveux que le bœuf.
C'est bien moins nerveux que le bœuf.
Quand la chaleur vous défrise, le temps gelé vous sauve la mise. De nos jours pour un grand bluff,
de nos jours pour un grand bluff,
on étouffe l'affaire dans l'œuf,
on étouffe l'affaire dans l'œuf.
Pour un ménage qui clabaude, l'œuf brouillé vous raccommode, et pour tuer dans l'œuf une grippe, quoi de meilleur qu'un porte-au-flip. Et dans les manifs, s'il n'y a plus de pavés, essayez les œufs couvés. Quoi de plus sympa qu'un œuf?
Quoi de plus sympa qu'un œuf?
Que le fouet mette à l'épreuve.
Que le fouet mette à l'épreuve.
Trois gouttes d'huile et c'est à l'aise, qu'il vous monte en mayonnaise. Quoi de plus sympa qu'un œuf?
Quoi de plus sympa qu'un œuf?
Qui vous tâche un reston neuf? C'est le seul cas où l'on promène son étoile jaune sans problème. Si d'aventure vous déplaît la tournure de ces couplets, s'ils ont mis vos nerfs à rude épreuve, allez vous faire cuire un œuf.
L'Égypte assiste au plus grand mouvement de son histoire consistant à nommer des jeunes issus des partis de la jeunesse et des hommes politiques, occupant des postes de direction, ce qui constitue un véritable pas en avant pour intégrer les jeunes aux efforts de renforcement de l'État. La nomination de 16 nouveaux gouverneurs, assistée par 13 nouveaux vice-gouverneurs majoritairement sélectionnés parmi les postulants du programme présidentiel de formation des jeunes leaders, constitue le plus grand mouvement de l'histoire de l'Égypte à ouvrir la voie à l'intégration des jeunes dans l'exécutif de l'État en occupant des postes de direction. Dr Hassam Abdel Fattah, qu'en pensez-vous de cette démarche?
On sait très bien que les forums de la jeunesse que l'État égyptien tient à organiser depuis des années ont une dimension intérieure et extérieure, ce qui permet un dialogue sérieux et direct entre les responsables et les jeunes. Et ça, c'est très important. Il faut mettre la jeunesse en contact permanent avec les responsables. Comme ça, l'échange de points de vue serait très utile pour les deux parties, le gouvernement d'un côté et la jeunesse de l'autre côté. Et puis, l'idée de la Conférence nationale de la jeunesse confirme que l'État égyptien adopte une approche permettant de donner aux jeunes la possibilité d'exprimer leurs espoirs, leurs revendications. Il y a aussi le Forum de la jeunesse où se rencontrent beaucoup de jeunes provenant de plusieurs pays, des jeunes aux nationalités différentes. Ça, c'est très important, c'est très enrichissant. Et on a vu que le Forum aussi était également une occasion pour ouvrir un dialogue entre les jeunes eux-mêmes, dans la mesure où les conférences ne se limitent pas à des questions, par exemple, économiques ou politiques, mais également s'étendent à d'autres aspects sociaux et scientifiques même. À partir de là, en fait, le président égyptien a décidé de faire intervenir la jeunesse dans l'appareil administratif de l'État. C'est-à-dire, on s'attend à ce que beaucoup de jeunes soient nommés, par exemple, ministres, vice-ministres, ou bien directeurs et des cadres, à titre d'exemple, dans l'administration égyptienne. Alors, quels sont les objectifs de la participation de la jeunesse à l'appareil administratif de l'État? Bien entendu, on le sait, c'est que les jeunesses peuvent toujours ajouter des dimensions intellectuelles que les vieux n'ont pas. Et nous vivons actuellement dans un monde numérisé. Alors, de la stratégie numérique implique la nécessité justement d'impliquer la jeunesse, parce que la jeunesse en général sont de loin, les jeunes sont de loin plus avancés que les anciennes générations. Ça, c'est l'idée de base, en fait, sur laquelle repose la politique actuelle du gouvernement égyptien, c'est d'impliquer la jeunesse dans les rouages de l'État, dans les postes, par exemple, à responsabilité. Bon, ça c'est très bien. Mais lorsqu'on veut vraiment examiner cette idée, ce projet, là vraiment il y a quand même un certain nombre de points qui, à mon avis, contestables dans ce projet. Parce que il faut dire la vérité, c'est que chaque âge quand même a ses avantages et ses inconvénients. C'est-à-dire, moi je vous rappelle que depuis très longtemps, dans les anciennes civilisations et même dans les tribus, à titre d'exemple, le chef de la tribu Et normalement, c'est un sage, c'est un vieil homme, un homme âgé. Et pourquoi on choisit toujours les chefs de tribu parmi les âgés? Parce qu'on suppose que ces figures, les figures en fait de ces vieux, ce sont des figures qui reflètent ou qui détiennent la sagesse. C'est pour cela on veut vraiment profiter de leurs expériences, de leur sagesse, de leur savoir-faire. Et or, nommer par exemple des jeunes dans des postes politiques comme par exemple le poste de ministre, ça c'est quand même, oui, ça a des avantages, beaucoup d'avantages. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que les jeunes représentent le sang neuf, l'énergie, le dynamisme, une vision future différente complètement. Mais il faut quand même tenir compte du fait que ces postes exigent quand même un savoir-faire, une expérience et des gens invétérés, des gens expérimentés, parce que c'est un poste politique. Bon, c'est conseillé, bien entendu, de nommer par exemple des jeunes comme adjoints ou bien comme directeurs, mais les grands postes comme les postes de ministres, il est quand même conseillé, à mon avis, de choisir parmi les âgés les figures ministérielles à un aspect politique, par exemple. Ça, c'est très important, à mon avis, et on verra. En tout cas, c'est une nouvelle politique, c'est d'impliquer la jeunesse, mais quand même, on ne peut pas se passer des expériences. Et quand je dis expérience, ça veut dire les figures emblématiques de l'État, qui sont les ministres expérimentés, les âgés, quand même. On ne peut pas se passer de cet âge, parce que ça quand même constitue une valeur, un savoir-faire enraciné dans la société. Et comme je viens de vous dire que chaque âge a ses avantages et ses inconvénients.
Ektishef musiki.
Hallazgo musical.
Hallazgo musical? Okay, a musical discovery.
Je vous invite donc à écouter Riham Abdelhakim, Fiha Haga Helwa, une chanson qui parle des habitudes des Égyptiens.
Ma
C'est la fin de Contara. Merci d'être des nôtres. Cette édition a été réalisée par Dina Abdelmekid de Radio Le Caire. Je vous rappelle que Contara est le fruit d'une large coopération avec Radio Extérieure d'Espagne, RCFM, chaîne Inter-Rabat, Radio Tunis, chaîne internationale, Radio Liban, Radio Palestine internationale et Radio Le Caire. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre page Facebook pour y retrouver nos reportages et pour écouter ou réécouter votre Contara. Au revoir, à la semaine prochaine.